VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 4 janvier 2018. À la une, Kinshasa a les pieds dans l'eau. Pas moins de 37 personnes décédées à la suite d'inondations et le bilan pourrait s'alourdir. La tentative de coup d'État déjouée par Malabo est une menace sérieuse pour toute la sous-région, estime le chef de la diplomatie tchadienne. À Lomé, la main tendue de Fort Niassibé, le président togolais a manifesté hier sa volonté de dialoguer.
En tant que Togolais, nous sommes habitués à faire dialogue sans lendemain, mais nous sommes optimistes quand même.
Réaction du professeur Magloire Kouakouvi. En Iran, de nouveaux rassemblements pro-régime ont été organisés aujourd'hui à Téhéran et dans 10 minutes l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, au moins 37 personnes sont mortes dans des inondations à Kinshasa, dues à de fortes pluies dans la nuit de mercredi à jeudi. Des chiffres provisoires selon les autorités locales. Des précisions avec Thierry Kabundi de Top Congo FM.
Nous avons enregistré 37 morts jusqu'à présent. Toutes ces personnes ont été victimes soit d'éboulements des terres, soit d'écroulement des murs de leur maison. Mais les recherches se poursuivent et ce bilan reste provisoire, a dit à Top Congo FM Dominique Ouéloli, le ministre provincial de la Santé et des Affaires Sociales de la ville de Kinshasa. Ces morts ont été enregistrées à Selembao, à Nganyema, à Bandalungwa où 5 enfants d'une même famille ont péri, à Barumbu ou encore à Limete où un officier de la police a perdu la vie avec sa femme et son enfant de 7 ans. La pluie de cette nuit a également causé d'importants dégâts matériels à Kinshasa. Des maisons inondées, des routes cassées. On a également noté l'inondation du poste haute tension de la SNEL, Société Nationale d'Électricité, dans le district de la Funa, qui a contraint cette entreprise de l'État à interrompre la fourniture de l'électricité pour limiter les dégâts. Conséquence, près de 10 communes de Kinshasa sont momentanément privées d'électricité. Ces inondations relancent le débat sur l'urbanisation de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, alors que la météo annonce encore d'autres pluies en ce mois de janvier. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pas moins de 14 personnes ont été tuées, 180 blessées jeudi lors d'une collusion entre un train et un camion survenu dans le centre de l'Afrique du Sud, selon un bilan provisoire. Un porte-parole du ministère provincial de la Santé a prévenu que le nombre de victimes pourrait augmenter. Selon des témoins, le train a déraillé et a pris feu après avoir percuté un camion à Kroonstad, à 200 km au sud-ouest de Johannesburg. Au moins 30 soldats nigérians sont toujours portés disparus après l'attaque d'une base militaire dans l'état de Yobe, au nord-est du pays, pendant le week-end de Noël, qui avait fait 5 morts, ont rapporté mercredi soir des sources sécuritaires. En Guinée équatoriale, la tentative de coup d'État que Malabo affirme avoir déjouée est une menace sérieuse pour toute la sous-région. C'est ce qu'a estimé le chef de la diplomatie tchadienne de passage à Malabo. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Zen Sherif, a affirmé que cette tentative de coup d'État est une menace sérieuse de déstabilisation qui concerne toute l'Afrique centrale. De son côté, le Gabon dit avoir pris des mesures de sécurité à ses frontières en coordination avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Selon la télévision d'État équato-guinéenne, hier, des affrontements ont opposé les forces de sécurité à ce qu'elle a qualifié de mercenaires près des frontières avec le Cameroun et le Gabon. Le ministre de la Sécurité Nicolas Obama Nchama, lui, a parlé d'un groupe de mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains. Des sources au Cameroun ont annoncé l'arrestation par la police camerounaise d'une trentaine d'hommes armés le 27 décembre à la frontière avec la Guinée équatoriale. Un ex-général de l'armée tchadienne, Mahamat Kodo Bani, a aussi été arrêté à Douala. Il en est de même pour l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Tchad, Henrique Nsoué Aguessom, arrêté à Ebibéine, ville frontalière. frontalière avec le Cameroun, d'après un de ses cousins, qui avance qu'il y était en villégiature. Malabo affirme que le coup d'État a été orchestré par des militants de certains partis d'opposition radicale, avec le soutien de certaines puissances étrangères. Le principal parti d'opposition, Citoyens pour l'innovation, rejette cette accusation et dénonce des dizaines d'arrestations de ses militants.
Au Togo, le président lance un appel au dialogue national. C'est la première fois que Faure Gnassingbé s'adresse directement aux Togolais depuis le début de la crise en septembre. En présentant ses vœux hier, il a réitéré sa volonté de dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise politique et sociale qui agite le pays depuis septembre. Nous y reviendrons dans la partie magazine. En Côte d'Ivoire, le général Sékou Touré, chef d'état-major des armées ivoiriennes, a présenté aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie des vœux à la présidence ivoirienne, ses excuses à la nation pour les mutineries qui ont ébranlé le pays en 2017 et promis qu'en 2018, l'armée remplira son devoir. Ces mutineries ont eu des graves conséquences économiques et sociales sur notre pays, a rappelé le général, promettant de redorer le blason terni de l'armée qui doit cesser d'être un problème. Selon lui, 230 militaires ont été radiés de l'armée en 2017. L'Ouganda n'a pas conclu un accord avec Israël pour accueillir sur son sol des migrants vivant illégalement en Israël. Ce démenti intervient au moment où Tel Aviv entend expulser près de 40 000 migrants africains. Abdourahmane Dia.
Le ministre ougandais des Affaires étrangères a indiqué que l'Ouganda est perturbé par ces informations. Selon Henri Okello Oryem, le gouvernement israélien doit être en position d'expliquer cette affirmation parce qu'aucun accord de ce genre n'existe entre l'Ouganda et Israël concernant le transfert d'immigrants africains d'Israël. Ces informations doivent être considérées comme fausses, a-t-il insisté. Israël a lancé hier un programme destiné à imposer à 38 000 migrants africains en situation irrégulière de choisir entre quitter le pays d'ici fin mars ou être emprisonnés pour une durée indéterminée. Ils sont en majorité des Érythréens et des Soudanais. Le gouvernement israélien reconnaît qu'il est trop dangereux pour eux de retourner chez eux, mais n'a pas dit dans quel pays tiers ils pourraient être envoyés. Des ONG israéliennes soutenant les migrants ont cependant affirmé que des accords avaient été signés avec le Rwanda et l'Ouganda pour accueillir les migrants volontaires. Un membre d'une ONG israélienne a lui affirmé que malgré les démentis répétés de Kampala par le passé, on voit que des milliers de migrants arrivent là-bas, donc on ne sait pas à quel point on peut prendre au sérieux les démentis de l'Ouganda.
La justice zimbabwéenne a annulé jeudi les poursuites contre une journaliste américaine accusée d'avoir insulté l'ancien président Robert Mugabe sur Twitter. La jeune femme, qui travaille pour la chaîne de télévision privée zimbabwéenne Mangamba TV, était accusée, selon le procureur, d'avoir publié un message sur Twitter où elle affirmait « Nous sommes dirigés par un homme égoïste et malade ». Le tweet était accompagné d'une illustration représentant Robert Mugabe, 93 ans, sous perfusion. Le premier ministre somalien a limogé jeudi les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Commerce après des semaines de tensions entre le gouvernement et plusieurs leaders de clans. Il a nommé des remplaçants pour les trois postes vacants. Le gouvernement marocain a affirmé accueillir favorablement les demandes de la population de Jerada et promis une série de mesures visant à apaiser le mouvement de contestation sociale qui agite depuis deux semaines cette ancienne ville minière.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé aujourd'hui de nouveaux plans de construction de logements dans les colonies juives de Cisjordanie occupées. Le nombre de logements concernés n'a pas été précisé. La construction d'habitations civiles dans les territoires occupés ou annexés par Israël depuis 1967, autrement dit la colonisation, est considérée par la communauté internationale comme illégale et comme un obstacle majeur à la recherche de la paix avec les Palestiniens. En Iran, de nouveaux rassemblements pro-régime ont été organisés aujourd'hui au lendemain de l'annonce par Téhéran de la fin de la contestation. Claire Morin-Gibourg.
La télévision d'État a diffusé des images de manifestations de soutien au pouvoir dans plusieurs villes du nord et du centre du pays. Sur ces vidéos, des manifestants scandent « Nous sommes tous ensemble derrière le guide », c'est-à-dire l'ayatollah Ali Khamenei, le numéro 1 de la République islamique d'Iran. Ces rassemblements pro-régime répondent aux protestations contre la vie chère et le pouvoir qui ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays depuis le 28 décembre. Ce mouvement de contestation sans précédent depuis 2009 a fait 21 morts et a entraîné des centaines d'arrestations. Les autorités ont accusé les groupes contre-révolutionnaires et les moudjahidines du peuple d'avoir profité des manifestations légitimes de la population pour créer des troubles. Téhéran a également accusé les États-Unis et l'Arabie Saoudite, sa grande rivale régionale, d'avoir attisé les troubles.
Au moins 11 personnes sont mortes et 25 blessées dans l'attentat suicide qui a secoué Kaboul jeudi soir, selon un porte-parole du ministère de la Santé. Le bilan pourrait évoluer, les ambulances continuant de travailler, a dit le porte-parole à la presse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
En Guinée, le gouvernement vient d'approuver un investissement de la société chinoise TBEA Group de 2,89 milliards dans le domaine de la bauxite et de l'alumine. Le FMI considère que les investissements dans la bauxite et l'alumine pourraient atteindre 6,5 milliards sur la période 2017-2020 dans un contexte de hausse de la demande mondiale d'environ 5% par an à moyen terme. Mais le secteur minier guinéen est très peu intensif en travail. Il contribue à 13% du PIB guinéen, mais ne représente que 3% de l'emploi total. Nouveau défi pour Rwandair. Après le limogeage de son principal responsable sur instruction du président Paul Kagame, la compagnie aérienne nationale rwandaise a depuis avril 2017 une nouvelle personne à sa tête. Chance Ndagano a désormais la lourde tâche de décollage de Rwandair. Cet ancien pilote, diplômé en aérotique, a une mission cruciale pour le pays des Mille Collines qui souhaite devenir un hub régional. Pour y parvenir, Chance Ndagano devra concilier les ambitions de la compagnie en matière de liaison intercontinentale avec la situation financière dégradée en raison d'un fort endettement. L'Angola prévoit de faire flotter librement sa monnaie. José de Lima Moussano, gouverneur de la Banque centrale, a annoncé mercredi le projet de faire flotter le Kwanza. Arrimé actuellement au dollar au cours de 166 pour un billet vert, le Kwanza se négociait mercredi à plus de 400 par dollars sur le marché noir.
À présent, c'est l'heure du sport avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Salah favori pour le Ballon d'Or africain.
Eh oui, l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, fait figure de favori pour ce Ballon d'Or africain 2017 qui sera décerné tout à l'heure à Accra. Sur le podium également, le Sénégalais Sadio Mané, son partenaire à Liverpool, et le Gabonais de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. On rappelle qu'actuellement, Mohamed Salah est le deuxième meilleur buteur de la Première Ligue anglaise avec 17 buts. Il a également qualifié, c'est historique, l'Égypte pour la Coupe du Monde 2018. Les pharaons d'Égypte qui n'avaient pas participé à une Coupe du Monde depuis 28 ans.
Bientôt un nouveau sélectionneur pour le Bénin.
La fédération béninoise vient de proposer trois noms au ministère des Sports. Alain Giresse, Michel Dussuyer et Pierre-André Scheurmann. L'ancien milieu de l'équipe de France, Alain Giresse, est libre depuis sa démission du poste de sélectionneur du Mali. Libre aussi Michel Dussuyer après son expérience décevante à la tête de la Côte d'Ivoire. On rappelle que le Bénin n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde en Russie. Le Bénin qui sera opposé lors des éliminatoires de la CAN 2019 à l'Algérie, au Togo et à la Gambie.
Le président de la Fédération Ivoirienne de Football sur la sellette.
Eh oui, la Fédération Ivoirienne de Football est en pleine turbulence. Des clubs et plusieurs groupements d'intérêt veulent une assemblée générale extraordinaire pour demander le départ du président de la Fédération Ivoirienne de Football. C'est la fédération qui a affirmé que 38 des 76 clubs de première, deuxième et troisième division ont demandé cette assemblée générale.
Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Battu lors du match d'ouverture de la saison, Boston a pris sa revanche hier soir et dominé Cleveland 102-88 dans le choc de la conférence Est. Ailleurs, DeMar DeRozan a marqué 35 points pour mener Toronto à un succès à Chicago 124-115, tandis que la star grecque Giannis Antetokounmpo, c'est pas facile à prononcer, a marqué 31 points et 10 rebonds lors de la large victoire de Milwaukee contre Indiana 122-101. Et puis les champions en titre Golden State, qui compte désormais 30 victoires pour 8 défaites, c'est le meilleur bilan de la NBA grâce à la nouvelle victoire des Warriors sur le fil à Dallas 125-122.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Linden, mis en onde par Sims Loumami. Place à présent au dossier du jour et on commence par le Togo où le président Faure Gnassingbé a réitéré hier en présentant ses vœux sa volonté de dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise qui agite son pays. C'est la première fois que Faure Gnassingbé s'adresse directement aux Togolais depuis le début de la crise en septembre. Après des mois de contestation populaire pour demander sa démission, menée par 14 partis d'opposition, le Parlement souhaite soumettre au peuple un projet de révision de la Constitution qui prévoit une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Toutefois, cette réforme n'est pas rétroactive, ce qui suscite la colère de l'opposition. Cet appel au dialogue va-t-il être entendu? Yacouba Ouédraogo a posé la question au professeur Magloire Kouakouvi.
Je pense qu'il sera entendu parce que avant son appel, le chef de l'opposition lui avait écrit pour qu'il se rencontre et discute, mais il n'avait pas reçu de réponse. Maintenant, étant donné le nombre de ceux qui appellent au dialogue, la CDAO et l'Union africaine, je pense que ça va marcher.
Justement, qu'en est-il de la médiation sous-régionale et régionale menée par les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et Guinée Alpha Condé qui ont été rejoints par ceux Burkinabé Roc et béninois Patrice Talon?
Nous entendons dire que l'État dit qu'il est souverain et qu'il n'a pas besoin de médiateur. Mais l'opposition exige un médiateur parce que quand on dialogue entre Togolais seuls, on met les recommandations dans un tiroir et puis la vie continue.
Le président Gnassingbé a souligné que les auteurs et les responsables d'actes de violence, de destruction et de meurtre doivent être soumis à la rigueur de la loi. L'opposition, elle, exige des mesures d'apaisement dont la libération de manifestants est toujours détenue. Ces préalables empêchent tout de même le dialogue.
C'est plutôt la libération des gens arrêtés qui empêche le dialogue, parce que pour ce qui est de la rigueur de la loi, c'est la énième fois que nous entendons cela, mais nous n'avons jamais entendu dire qu'on a condamné qui que ce soit parmi les forces habillées. L'impunité a fait que la population ne croit pas à ce genre de promesses.
Faure Gnassingbé a annoncé aussi un référendum pour l'adoption du projet de révision de la Constitution qui prévoit, entre autres, une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, une limitation qui n'est pas rétroactive, ce que rejette l'opposition. Le pouvoir n'a pas fléchi.
J'avais fait également une proposition qui dit qu'on ne peut pas aller à un référendum avec 4 articles. Ils avaient rejeté les 47 amendements de l'opposition. Eux-mêmes ont modifié 42 articles en 2002 et maintenant ils disent qu'il faut aller au référendum juste avec les 4 articles que ils ont proposé, est-ce que n'est pas bon sur le plan rationnel.
Est-ce que vous êtes optimiste que le pouvoir et l'opposition puissent s'asseoir autour de la même table et discuter concrètement de tous ces sujets-là?
Ça sera la 28e fois qu'ils vont le faire. C'est pour ça que l'évocation du médiateur est intéressante, parce que ce n'est jamais suivi de comité de suivi. Et ils s'asseyent, ils décident, on proclame et puis tout le monde retourne à ses occupations. Nous devons espérer que cette fois-ci, il y aura un comité de suivi. Sinon, en tant que Togolais, nous sommes habitués à ce dialogue sans lendemain. Mais nous sommes optimistes quand même.
Le professeur Magloire Kouakouvi.
et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi 4 janvier. George Weah, élu nouveau président du Liberia, une nouvelle ère en perspective pour ce pays de près de 5 millions d'habitants. Dans son premier discours post-victoire, l'ancien footballeur dit vouloir améliorer la vie des Libériens et mettre fin à la corruption gouvernementale. Il a aussi appelé les investisseurs étrangers à venir bâtir le pays à ses côtés. L'ancien Ballon d'Or est-il à la hauteur des défis qui se présentent devant lui? Comment va-t-il pouvoir tenir ses promesses de campagne? Et fera-t-il mieux que la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Tchad, un véritable bras de fer se prépare entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Un projet de rabattement des salaires des fonctionnaires civils et militaires tchadiens est en cours. Réaction des différents responsables des syndicats des travailleurs du Tchad dans le reportage d'André Kodmajinga.
S'il y a un sujet qui fait l'unanimité dans les quartiers généraux des différentes centrales syndicales en ce début d'année, c'est bien évidemment ce projet de rabattement de salaire, lequel projet est en étude sur la table du nouveau ministre des Finances Abdoulaye Sabre Fadoul, considéré comme l'initiateur de 16 mesures d'austérité par les travailleurs. Le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad et membre de la plateforme syndicale revendicative Gounou Vaima Gamfare explique comment l'État entend couper les salaires des fonctionnaires.
Ils ont commencé par le SMIC, où ils prennent 5%, de 60 à 100 000, 15%, de 100 à 220%, de 200 à 325%, de 300 à 430%, de 400 à 535%, de 500 à 1 million, 40% et supérieur à 1 million, 45%. Pour le personnel diplomatique, inférieur à 500 000, 5%, égal ou supérieur à 500 000, 10%. Et pour le personnel de force de défense et de sécurité, inférieur ou égal à 100 000, 5% et supérieur à 100 000, 10%.
Pour le président du comité technique chargé du dialogue social Ali Abbas Cheiti, c'est pour répondre aux exigences des partenaires financiers, notamment le FMI, que l'État envisage faire cet abattement. Le secrétaire général du syndicat national des agents des finances du Tchad, Ngaudom Mouiba, met en garde le gouvernement de ces agissements.
Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les droits d'assises de 18% de téléphonie mobile et compagnie? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les ressources locales quand les partenaires en développement nous ont pris en charge sur le plan salarial? Un gouvernement responsable qui transforme la mendicité en système de gouvernement, ça ne marche pas. Nous allons gérer la rue.
Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SINES n'entend pas avaler ses couleuvres. Mahamat Nour Ahmad Roufaï est le secrétaire général du SINES.
Nous avons rejeté en bloc ces projets fallacieux. Nous avons notre stratégie de barrer la route à ce projet-là, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive.
Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad CLTT, Ibrahim Ben Seït, accusé par ses camarades syndicalistes de faire le jeu du pouvoir dans ce genre de lutte, sort de son silence.
Aujourd'hui, le gouvernement paye des gens non fonctionnaires, décrétés plus de 10 000 personnes. Nous sommes catégoriques et nous ne voulons pas qu'on touche nos salaires. C'est une autre forme d'esclavage. Les salaires, là, c'est sacré.
Si les deux parties, gouvernement et partenaires sociaux, ne mettent pas de l'eau dans leur vin, l'année 2018 risque d'être mouvementée sur tous les plans. André Kodmajingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Accusant son ex-conseiller Steve Bannon d'avoir perdu la raison, Donald Trump a rompu avec un collaborateur clé de la campagne électorale de 2016. Ce commentaire fait suite à la diffusion d'extrait d'un livre dans lequel il est cité, affirmant notamment que le fils de M. Trump a commis une trahison en rencontrant une avocate russe. Pour une analyse sur cette nouvelle fracture politique entre le président américain et un membre influent de son entourage, Nathalie Barge a joint Jean-François Zeznek, professeur de sciences politiques à l'Université Georgetown.
Il est certain que Donald Trump doit être très, très fâché, mais je pense que ce qui est très symptomatique ici, c'est qu'il y a la cassure entre Bannon et Trump qui est très importante. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Bannon a pris cette position tout d'un coup. Et ça, je pense que c'est ça qui signifie beaucoup de choses. Ce n'est pas un bon signe pour la présidence de Trump.
Quelle nouvelle ligne de fracture, finalement, cela révèle-t-il, en fait, cette cassure entre Donald Trump et Steve Bannon?
Trump perd sa base et perdant sa base de droite, son extrême droite, et il a déjà bien sûr perdu son extrême gauche. Alors là, c'est pas un très bon signe, mais Steve Bannon, en fait, prépare l'ère post-Trump. Il est très aimé par peut-être 20% de la population qui écoute ses nouvelles sur Bay Park News, qui croit ce qu'il dit tout le temps. Et maintenant, lui, Bannon, a perdu beaucoup de crédibilité vis-à-vis de cette base parce que Trump ne suit pas forcément les politiques que Bannon voudrait qu'il suive. Bannon, en plus, a dû comprendre et décider que Trump lui-même a maintenant, en fait, ne sera peut-être plus au pouvoir pendant très, très, très longtemps. Et donc, il est en train de préparer l'ère après Trump.
Quel genre d'autres questions cela peut-il soulever à l'approche des primaires républicaines en vue des élections de mi-mandat, notamment cassure avec d'autres personnes éventuellement? Et selon vous, est-ce que vraiment on peut parler d'attaque sciemment calculée justement par rapport à ces élections?
Ah oui, certainement. Oui, certainement. Je pense que Bannon est en train de mettre ses candidats en place. Même si c'est des candidats purs et durs, ça ferait sans doute perdre le contrôle de l'Assemblée nationale. Les Républicains perdront sans doute ce contrôle parce que leurs candidats purs et durs ne plairont pas à la majorité d'abord des démocrates et à une grande partie des Républicains. Donc ils perdront une grande partie des sièges qu'ils ont, mais ils auront un noyau pur et dur à l'Assemblée qui préparera le futur, si vous voulez. Donc je pense que Bannon a décidé qu'ils avaient perdu une grande partie de leur crédibilité maintenant à cause de Trump, et que Trump va avoir des gros problèmes, soit directement, soit son fils, avec le procureur de la République. Donc il se prépare à avoir plusieurs années en minorité, en fait.
Le politologue Jean-François Seznec.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Fumer de la marijuana pour le plaisir est désormais légal en Californie, mais seules quelques villes de ce gigantesque État américain sont réellement prêtes à commencer à vendre, autant pour moi, de la marijuana qui a été officiellement légalisée le 1er janvier. La production, la logistique et la création de ces nouvelles sociétés est compliquée, mais la demande est élevée. Un reportage de Kevin Enoch, récit de Claire Morin-Gibourg.
Les clients sont nombreux à faire la queue à l'extérieur du dispensaire médical MedMen, car pour la première fois, ils vont pouvoir acheter de la marijuana légalement et juste pour le plaisir. Plus besoin de prescription médicale, résident en Californie, Jason Lavitt est absolument ravi de cette nouvelle loi.
C'est un moment historique. J'ai fait la queue pendant une heure et demie. Je pense que c'est génial de pouvoir venir ici et de pouvoir acheter de la marijuana. C'est une belle journée.
Le 1er janvier, la Californie est devenue le 6e État américain à légaliser l'usage récréatif de la marijuana. Bien que ce soit toujours un crime fédéral d'utiliser, d'acheter ou de posséder de la marijuana. C'est un enjeu de taille pour cet immense État américain qui compte 40 millions d'habitants et qui est la 6e plus grande économie du monde. Stephen Warren a aussi patienté plus d'une heure et demie pour pouvoir être l'un des premiers clients de MedMen.
Ça fait du bien d'acheter de la marijuana pour la première fois. C'est une victoire pour les droits individuels. Vous avez enfin la liberté de faire ce que vous voulez et de passer du bon temps.
Seul problème, chaque localité en Californie a un ensemble de règles compliquées si vous voulez créer une nouvelle entreprise, et un certain nombre de villes n'ont pas finalisé cette réglementation. Les autorités veulent que l'ouverture de boutiques de vente de marijuana soit fortement encadré. Mais l'enjeu est énorme. L'économie de la marijuana devrait valoir plusieurs milliards de dollars et donc augmenter les recettes fiscales. Le PDG de MedMen, Adam Bierman, en est tout à fait conscient.
C'est l'essentiel, rendez-vous compte. C'est le premier jour des ventes récréatives légales dans la ville de West Hollywood. Regardez dehors, il y a plus de 150 personnes qui attendent. Tout le monde est tellement impatient d'acheter de la marijuana, c'est évident.
Après avoir été pionnier de la marijuana médicale depuis 1996, la Californie va devenir de facto le plus gros marché mondial légal de la petite feuille en forme d'étoile. La mairie et même la police sont favorables à cette industrie en plein boom qui devrait rapporter à la Californie 5,8 milliards de dollars d'ici 2021. En attendant que de nouvelles boutiques puissent ouvrir leurs portes, les Californiens peuvent désormais également cultiver quelques plants de marijuana chez eux en toute légalité.
C'est sous cette ère de marijuana que s'achève cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Sims Lumami. Zuniak était à la console. Présentation John Linden. Merci d'avoir suivi.